autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Pauline Leduc à la réalisation, pour soulever ensemble toutes les questions de science, possibles et imaginables, avec méthode et humour, histoire d'éveiller notre curiosité et de développer notre sens critique en compagnie de deux formidables passeuses de science, les vidéastes Léa Bello et Manon Bril, zeste de science, et c'est une autre histoire pour les connaisseurs des chaînes YouTube, qui viennent de rejoindre le collectif Vortex, de jeunes talents de la vulgarisation scientifique développée avec succès par la chaîne Arte, un collectif qui ose tout et surtout le meilleur pour partager leurs connaissances et leurs interrogations, toutes leurs interrogations, même les plus farfelues, autour de la question comment faire passer sa science sur le net. Bienvenue pour un petit avant-goût sonore qui a, comment dire, du souffle.
Aujourd'hui, on va parler de ballons, mais de ballons qu'on éclate!
Mais pourquoi les statues ont des petits pénis? Aujourd'hui, on va répondre ensemble à cette épineuse question. Faites pas genre, je suis sûre que vous êtes tous posé la question au moins une fois au musée. D'ailleurs, vous me l'avez massivement posée en commentaire.
Bonjour Manon Bril.
Bonjour.
C'est vous qu'on vient d'entendre dans cet extrait d'une de vos plus célèbres vidéos. Pourquoi les statues grecques ont-elles un si petit pénis? Vous nous expliquerez dans quelques instants pourquoi c'est une autre histoire, ce qui est le nom de votre chaîne YouTube. Bonjour Léa Bello.
Bonjour.
Alors vous nous avez fait partager la science des ballons, qui éclate ou pas, sur la chaîne Zeste de Science du CNRS, que vous avez lancée. Vous êtes journaliste scientifique, Léa, vidéaste indépendante, titulaire d'un doctorat en sciences de la Terre et des planètes, et d'un Master 2 de communication scientifique. Vous travaillez aujourd'hui à la fois pour l'Institut Polaire Suisse, le CNRS et pour des projets de séries scientifiques. Vous avez rejoint la fine équipe de Vortex, la chaîne YouTube de vulgarisation scientifique d'Arte. Pourquoi ce choix, Léa, de faire de la médiation scientifique et pas de la recherche, et de cette manière-là décalée avec à la fois beaucoup de rigueur et beaucoup d'humour?
C'est un choix qui s'est fait petit à petit. Pendant ma thèse, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup creuser certains sujets qui s'éloignaient parfois de mon sujet de thèse en lui-même. Et puis, j'aimais beaucoup l'image. Donc, j'ai commencé par créer une asso de médiation scientifique à Lyon pendant la thèse. Et puis, je me suis dit qu'en fait, je voulais en faire mon métier. Et à partir de là, j'ai un petit complexe de l'imposteur probablement, donc j'ai aussi refait un master derrière.
Ah et oui, pour être vraiment équipée voilà, et pour ça. Pouvoir vous lâcher finalement.
Mais j'avais juste besoin d'être rassurée et puis d'avoir quelques petites notions un peu de médiation et tout ce qui me manquait en fait. Et puis je me suis lancée et puis ça m'a permis de faire un stage au CNRS et j'ai rencontré les équipes de CNRS Images à ce moment-là. Et ça a mûri, on a pu aboutir au projet de Zeste de Science qui a été ouvert il y a 2 ans.
Très belle chaîne que je vous conseille, chers amis auditeurs et internautes, d'aller y jeter un œil ou une oreille. Alors Manon Bril, vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire contemporaine. Pourquoi et comment avez-vous décidé de faire passer votre science, l'histoire en l'occurrence sur le net, dans des formats très variés, à la fois sur votre chaîne YouTube, c'est une autre histoire, mais aussi donc en collectif, en collaboration sur le Vortex d'Arte? C'est la meilleure manière de faire passer l'histoire?
Ah, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'en est une, ça c'est sûr. Et donc moi, ça a commencé l'expérience de la vulgarisation en participant au concours Ma thèse en 180 secondes, qui est organisé par le CNRS.
Et qui s'est déroulé cette année, la finale s'est déroulée à Dakar.
C'est vrai, oui. Exact. Ça, c'était en 2015 et on avait eu un peu de formation, quelques jours à un peu la médiation scientifique. Ça m'avait plu. Moi, je faisais de la scène en loisir, donc j'aimais bien cette idée de pouvoir allier le plaisir de la scène avec les sujets de prédilection qui sont les miens. Et comme j'ai eu le prix du public à la finale régionale de Midi-Pyrénées, ce qui ne qualifie pas pour
de ma thèse en 180 secondes.
De ma thèse en 180 secondes, pardon. Ça ne qualifie pas pour la finale nationale, mais ça voulait dire que la majorité de la salle avait été convaincue. Et du coup, je me suis dit, potentiellement, il y a un public pour ça. Et ensuite, au fil d'autres expériences, j'en suis venue à la vidéo. Et en fait, petit à petit, ça m'a fait... Enfin, assez vite, c'est devenu viable. Et je me suis dit, bah, j'adore cette activité. Je vais terminer ma thèse et pas faire de la recherche, mais bosser là-dedans.
Bosser là-dedans pour raconter quoi l'histoire vue autrement ou l'histoire, pas seulement à travers les plus grands personnages, les victoires, mais un peu autrement, un peu décalé
Oui, en fait, ce que j'essaye de faire sur cette chaîne-là, c'est de casser un peu les codes un peu traditionnels de transmission de l'histoire avec... ce qu'on a plus l'habitude de voir, c'est-à-dire les violons et la bibliothèque en fond et les images un peu pompeuses. Moi, ça m'ennuie énormément. Donc, je parle purement de forme, hein, vraiment. C'est quelque chose qui m'ennuie et que je trouve poussiéreux et pas forcément très attrayant. Et j'avais envie de faire un truc rigolo dans la façon de présenter. Donc, le contenu, il est sérieux et pas forcément spécialement original en soi. Mais la façon de transmettre, comme dit le nom de la chaîne... c'est une autre histoire, c'est de faire un peu autrement. En tout cas, de le faire comme moi, je communique avec mes amis, etc. Donc, ça peut être potache, ça peut être décalé. Surtout, ça permettait de ne pas avoir un ton académique comme à l'université, parce que sur YouTube, on fait à peu près ce qu'on veut. Et voilà. Donc, ça s'est monté comme ça, plus d'une envie. Et en plus, comme bah, ça a trouvé un public en face... c'est devenu mon métier.
Vous osez, hein, en tout cas, amour potache parfois. Humour, amour, pas pour dire amour, mais humour potache parfois. En tout cas, ça marche. La preuve avec cette vidéo, dont on a eu un petit avant-goût, sur le sexe des statues grecques, qui a fait le buzz. Et pour cause, voici maintenant l'extrait.
Mais pourquoi les statues ont des petits pénis? Non mais c'est vrai, hein, quoi, quitte à faire des mecs virils avec des gros muscles et tout, pourquoi ne pas leur avoir mis des grosses bites?
En même temps, c'est pas si petit comme...
Ouais, enfin, il a l'air d'avoir le seum quand même, quoi. Salut, c'est Manon Bril et aujourd'hui, on va répondre ensemble à cette épineuse question. Pourquoi les statues ont des petits pénis? Allez, faites pas genre, je suis sûre que vous êtes tous posé la question au moins une fois au musée. D'ailleurs, vous me l'avez massivement posée en commentaire. Et peut-être avez-vous émis des hypothèses. C'est peut-être parce qu'ils sont au repos ou encore qu'il fait froid. Mais honnêtement, c'est quand même assez petit, même pour des popoles flasques. Pendant l'Antiquité, la représentation du sexe masculin fait l'objet d'une attention toute particulière. Il y a donc des critères de beauté précis pour le sexe de l'homme que les artistes respectent aussi bien pour la sculpture que pour la peinture, sur les vases antiques par exemple. Le sgeg idéal, que ce soit celui d'un dieu ou d'un homme, est mince et court, parfois plus qu'un doigt, et se termine par un prépuce pointu. Ce qui est marrant, c'est que par contre les bourses sont de taille normale, donc le contraste est encore plus frappant. En fait, si on ne représente pas les beaux gosses bien membrés, c'est parce qu'à l'époque, les gros bâtons ne sont pas du tout valorisés. Alors, pas du tout.
Voilà qui est dit, Manon Bril, mine de rien, vous dites beaucoup de choses sur l'Antiquité grecque à travers cette question
sujet, oui.
Sur la petitesse des pénis des statues grecques.
C'est exactement ce que j'aime dans ce type de sujet, c'est que la question peut paraître futile, voire un peu grossière, etc. Et en fait, elle parle d'une construction de société qui est extrêmement intéressante. Donc là, en l'occurrence, l'image de la virilité qui répond pas du tout aux mêmes critères autrefois et en Grèce, et puis on parle de Rome aussi, comparé à maintenant chez nous. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de... il y a même une dimension militante, c'est-à-dire qu'on arrête de faire uniquement l'histoire des grands rois et machin et compagnie, et les questions de quotidien ou de sexualité ou autre ont leur intérêt historiographique aussi. Et bon, ça, c'est quelque chose que la recherche a compris depuis très longtemps.
Mais qui n'est pas tellement passé dans le grand public, en fait.
Voilà, exactement. L'image que le grand public se fait de l'histoire, ça reste encore quelque chose de grand. Ce qu'on voit dans les médias les plus diffusés, c'est l'histoire des rois et des reines et des dessous de Marie-Antoinette. Et en fait, ces questions-là, elles ne sont pas du tout moins intéressantes que les autres. Et donc, j'aime bien, en plus d'avoir une entrée rigolote qui peut attirer du monde, dire bah c'est pas juste une question futile, ça contient une vraie problématique derrière.
Ça dit plein de choses sur l'histoire et sur la société. Comment vous choisissez d'ailleurs vos sujets? C'est par hasard, par envie? Vous en avez comme ça tout plein en attente dans vos tiroirs?
Ça dépend des moments, mais c'est principalement par envie. Des fois, c'est une question qui peut... émerger du public, mais la plupart du temps, c'est moi en lisant des trucs, en écoutant des choses.
Du public, des internautes qui vous demandent des choses.
Ouais. Donc, c'est plus au gré de mes lectures ou de mes centres d'intérêt ou de ce que je vois passer. Je me dis, ah, mais ça, c'est génial, je vais essayer d'en parler aux gens. C'est pas forcément des trucs dans l'actualité de la recherche, ça peut être des choses qui sont déjà bien installées pour les historiens, mais qui sont pas forcément connues du grand public. Donc,
et
voilà.
Oui, c'est diffusé dans le grand public. Mmh. Et vous, Léa, comment vous choisissez vos sujets? Vous avez un... Pareil, vous en avez plein les tiroirs ou...
Ouais, bah, sur la chaîne Zeste de Science, du coup, on regarde les actualités des laboratoires. Donc là, pour le coup, c'est très lié à l'actualité, les dernières publications. Et puis le choix se fait plus sur... l'intérêt, le petit côté piquant du sujet. Est-ce ouais, que voilà, est-ce que j'ai envie d'en savoir plus quand je lis ça? Est-ce que voilà, le dernier c'est sur des grenouilles fluo. Bon bah on se dit mais elles sont bizarres ces grenouilles. J'ai envie d'en savoir.
On va y venir à ces grenouilles, mais moi j'ai aussi été impressionnée, si j'ose dire, ou titillée plutôt, parce que vous cherchez vraiment à titiller notre curiosité, à nous alerter aussi parfois, sur certains biais de l'esprit ou automatismes, sur une vidéo que vous avez publiée, Léa, sur le Vortex, autour de la question « Faut-il être mignon pour survivre ?» Extrait et explication.
Si je vous demande de me citer une espèce menacée, vous me citerez sûrement l'ours polaire, le tigre peut-être, le panda. Bref, des mammifères mignons et emblématiques. Et ce n'est pas anodin, ces espèces sont ce que l'on appelle des espèces charismatiques. Sauf qu'il y a tout un autre pan de la biodiversité, souvent oublié, qui disparaît aujourd'hui en silence. Les insectes. Est-ce que nous n'aurions pas un biais dans nos choix de sauvegarde de la biodiversité ?
Tu veux parler de biais cognitif ?
Oui. Je suis en train de me demander si on n'aurait pas tendance à sauvegarder certaines espèces juste parce qu'on les trouve mignonnes, sans tenir compte de leur importance dans l'écosystème.
Voilà une question poil à gratter qui devrait nous faire réfléchir, Léa Belloé, que vous avez concocté pour Vortex sur Arte, avec votre complice de la chaîne Hygiène Mentale, Christophe Michel. C'est un peu quand même pour nous alerter sur quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est quand même gros comme une maison, justement. Le fait qu'on pense beaucoup au panda et à l'ours blanc, et un peu moins au coléoptère dont on parlait lundi ici même.
Oui, justement, c'était un peu un sujet qui me grattait. C'était la bonne référence.
Qui vous démangeait.
Ouais, et donc j'ai pris un réel plaisir à justement aller fouiller, voir différentes approches, parce que c'est vrai que en fait on n'a pas du tout conscience, je pense, de à quel point notamment les insectes dont on parle disparaissent. Et justement, en lisant les articles récents sur l'état de la biodiversité, ils montraient qu'il y a un impact beaucoup plus grand, et en fait on n'en parle jamais, enfin dans les médias c'est souvent on en parle assez peu. Et par contre, parce qu'il y a des associations de défense des animaux qui ont utilisé justement, je pense évidemment à WWF.
Avec le panda.
Mmh.
Donc qui est très mignon.
Qui est très mignon, c'est des images. C'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus facile à filmer. Donc on a beaucoup plus de documentaires. Mine de rien, ça compte en fait l'image aujourd'hui dans les médias. Et bah, j'avais envie d'approfondir ça et puis de montrer qu'il y avait aussi des solutions. Parce que l'épisode en entier justement montre que c'est quelque chose que la recherche a remarqué, a vu, et dont on est en train de prendre conscience au niveau du public et au niveau aussi des pouvoirs publics.
Mais bien sûr, nous, on ne peut pas passer à l'intégralité, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est très fouillé, c'est vraiment en lien avec des études, des recherches scientifiques. C'est vraiment, vous faites passer la science. Alors, je ne sais pas tellement comment vous appelez, on dit vidéaste, youtubeuse, tout ça n'est pas très très joli, entre guillemets, vulgarisateur, vulgarisatrice de science. Moi, j'aime bien passeuse de science. Qu'est-ce que vous aimeriez? C'est compliqué de vous qualifier, parce que vous avez vraiment les données scientifiques de base pour le faire. Et puis, vous avez ce côté marrant. Voilà, vous êtes des vrais vidéastes, vous savez quoi faire face à une caméra, vous savez comment faire passer des choses avec humour. Comment il faudrait vous appeler, tiens?
Je pense que, bon, youtubeur, c'est pas très beau, puis ça fait clairement référence à la plateforme.
Ben oui, alors qu'il y en a d'autres aussi, en plus.
Il y en a d'autres, et puis il y a certains formats qu'on diffuse plutôt sur des sites web qui sont en dehors de YouTube. Mais vidéaste, ça reprend bien tout ce qu'on fait dans le métier, c'est-à-dire, enfin, je pense que on écrit, on tourne, on monte.
Je dis plutôt vidéaste sur internet, parce que vidéaste ça peut aussi être plein d'autres corps de métier, ouais, dans le cinéma et compagnie. Et le mot youtubeur, il me dérange pas, moi. Ce qui est important pour moi, c'est d'utiliser les mots que le public comprend.
Oui, c'est ça.
Et
bien
donc
sûr.
Vidéaste et youtubeur, ils sont vraiment passés dans le langage courant de notre public, donc ceux-là, ils les comprennent. Je préciserai vidéaste sur internet, tu vois.
Et pareil, vulgarisateur, je pense que, enfin, il y a certaines personnes qui trouvent ça pas très beau, mais je pense que c'est...
Alors que ça vient du latin, voilà, le peuple, ça n'a rien de... Enfin, en fait, c'est un mot, mais il n'y a pas de raison.
C'est un mot qui a évolué et puis et qui a pris une connotation péjorative, mais en fait, aujourd'hui, il est utilisé comme comme il était à l'époque.
À l'origine, donc voilà, comme quoi de l'intérêt de faire de l'histoire ou de remonter à l'étymologie. En même temps, vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux, youtubeurs et youtubeuses sur le net. Moi, je parle de ce qui nous intéresse, nous, des youtubeuses de, et youtubeurs de science, hein, de science au sens large. Il y a des choses formidables, rien que sur, le, sur votre comment dire, collectif ou colocation. Il y a Patrick Baudaxolot, il y a également Christophe Michel, dont on vient de parler. Et puis, sur la première saison, il y avait Dirty Biology de Léo Grasset ou Viviane Lalande, qu'on a reçu également de Syllabus. Tous excellents passeurs, diffuseurs de science, mais est-ce que ça n'en fait pas un peu trop? Et comment on fait pour vous trouver? Parce que finalement, moi, j'ai eu la chance, grâce à Vortex et Arte, ben, de tomber sur vous, mais il y en a tellement que parfois, on peut passer à côté aussi. Est-ce que c'est une compétition? Est-ce qu'il y a saturation? Qu'est-ce que vous en pensez, Manon, avec votre chaîne? C'est une autre histoire.
La seule concurrence qu'il peut y avoir, c'est le temps d'attention des gens qui est comme tout, enfin, temps d'attention, plutôt temps de disponibilité pour regarder des vidéos qui est limité. Donc, c'est la seule concurrence qu'on peut avoir. Il y a avoir de la visibilité, c'est de plus en plus dur. Et comme il y a de plus en plus de vidéastes, c'est difficile d'émerger pour les nouveaux. Ça, c'est compliqué. Pour le public, c'est un apprentissage comme quand on apprend à se servir d'Internet ou à faire une recherche sur Google. C'est un apprentissage de l'outil YouTube. Donc, c'est utiliser des mots-clés, etc. Regarder ce qu'il y a en suggestion. Sachant que c'est toujours plus difficile pour les gens qui ont moins d'abonnés et moins de vues d'être mis en avant par YouTube, même en faisant des recherches.
Voilà. Donc, il faut faire attention à ces biais-là. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Léa Bello?
Je pense qu'effectivement, on est très nombreux, mais que ça permet d'avoir une très grande diversité, notamment en diversité de sujets. Mmh. Et souvent, la personne qui va lancer sa chaîne, c'est une personne qui est passionnée. Et donc, ça permet d'avoir, pour chaque sujet, quelqu'un qui va être passionné, qui va se lancer à fond pour écrire ses épisodes. Après, je suis d'accord avec Manon, il faut regarder les suggestions. Finalement, par exemple, le Vortex permet de faire émerger certaines chaînes, découvrir certaines chaînes qui sont plus petites. Donc, ça peut être au contraire pas du tout une concurrence, mais quelque chose de positif.
Vous-même, vous n'avez pas choisi de monter votre propre chaîne, par exemple. Enfin, vous travaillez pour Zest de Science, pour d'autres. Vous avez d'autres projets aussi, mais vous n'avez pas choisi d'ouvrir une nouvelle chaîne YouTube. Léa Bello.
Effectivement, j'ai pas de chaîne YouTube Léa Bello et je l'ai fait aussi parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde. Donc justement sur l'idée de saturation et puis parce que j'avais pas spécialement un sujet très innovant ou une forme très innovante. Donc j'ai préféré laisser la place aux gens qu'il y avait et apporter mes compétences aux projets qui existent.
En tout cas, on est fans hein, des youtubeurs et surtout des youtubeuses. Un petit clin d'œil à vous toutes, sans oublier Florence Porcel, la community manager de l'univers. On vous dédie cette chanson, Léa Bello et Manon Bril, signée d'un youtubeur musical, PV Nova, que vous connaissez évidemment bien mieux que moi. Le morceau s'intitule « Sexy Goddess » sur RFI. Goddess sur RFI, à découvrir sur la chaîne YouTube du DJ Pivé Nova, que vous connaissez évidemment bien mieux que moi, mesdemoiselles. Manon Bril.
Oui, bah, c'est un copain et il va apparaître dans mon prochain épisode animé. Enfin, y apparaître par la voix, puisque c'est un épisode animé, mais il aura vraiment son personnage dessiné, etc. Donc, ouais. Et on disait, c'est un des plus anciens vidéastes français, pour le coup, sur YouTube.
Ouais, c'est le premier Manon. Que j'ai suivi, ce que je disais.
Léa ?
Ouais, je disais que c'était un des premiers YouTubeurs que j'ai suivi. Il avait fait des expériences musicales, qu'il appelait, où il faisait vraiment de la vulgarisation de la musique.
Nous sommes donc en votre compagnie, vous êtes deux vidéastes youtubeuses de science, Léa Bello, zeste de science, et Manon Bril, c'est une autre histoire. Vous venez de rejoindre le Vortex, la chaîne de vulgarisation scientifique d'Arte sur YouTube, avec Patrick Bott, Taxolot et Christophe Michel d'Hygiène Mentale pour cette deuxième saison. Plus on est de fous, plus on rit, et plus on s'ouvre mutuellement l'esprit, notamment l'esprit critique. Face à l'avalanche d'informations, vraies ou fausses, distillées sur le net, comment faire le tri, en particulier quand il s'agit d'un faux scientifique, comment traiter sur YouTube de la fiabilité des études scientifiques, question soulevée autour d'un café par Christophe Michel avec Léa Bello et Manon Bril sur le Vortex extrait.
La vache Manon, tu bois beaucoup de café quand même, j'ai entendu dire que c'était cancérigène.
Bah, t'as vu ça où toi ?
Il y a des études scientifiques qui montrent ça. Attends, le café, un bon goût de cancer.
Non, attends. 11 raisons pour lesquelles vous devriez boire du café tous les jours.
En tout cas, c'est mauvais pour la santé. L'Europe met en garde contre l'abus de café.
Oui, mais 3 cafés bio par jour, c'est bon pour la santé.
Ah non, en fait, le café, c'est le prochain produit cancérigène sur le radar de l'OMS.
Le café réduit les risques de cancer.
En tout cas, il y a des raisons de s'en méfier.
Finalement, virgule, ce serait bon pour la santé.
Bon, qui veut du vin ?
C'est sûr que si on se base sur les articles de presse pour se faire une idée sur des sujets de ce genre, on a rapidement une vision qui ressemble plus aux idées reçues plutôt qu'aux réelles connaissances scientifiques. Mais se baser directement sur les articles scientifiques, c'est difficile quand on connaît pas trop. Parce que le mécanisme des publications, c'est pas simple. Et ensuite, il faut savoir comment interpréter ces résultats. C'est pas inné. Ça s'apprend. C'est enseigné à ceux qui sont destinés à devenir chercheurs. Mais moi, je ne suis pas chercheur. C'est difficile pour moi de savoir seulement où chercher.
Voilà qui est dit et bien dit par Christophe Michel, avec vous Léa Bello dans cet épisode de Vortex. Alors Christophe Michel, c'est le sceptique, hein, j'ai envie de dire, de la bande. Celui qui, après avoir été professeur de physique, se dédie entièrement à la promotion de l'esprit critique, ça c'est pas pour nous déplaire, sur sa chaîne YouTube Hygiène Mentale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot et de quoi être sceptique aujourd'hui face à l'avalanche d'infos sur le net.
Oh ben, y a toujours besoin de scepticisme. Le mouvement sceptique, c'est un mouvement de pensée qui date depuis l'Antiquité, où déjà des gens se posaient la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour trier le vrai et le faux. Comment est-ce qu'un simple citoyen, comme moi, qui ne suis pas vraiment un scientifique, comment moi est-ce que je peux faire pour trier entre le vrai et le faux dans ce que j'entends sur les médias, à la radio, à la télévision ou sur Internet? Est-ce qu'il est seulement possible de se faire une opinion sur ces sujets-là? Ben, ça demande un peu de méthode, et je me suis posé ces questions-là parce que moi j'ai fait quelques études de sciences, mais sans faire de thèse et sans faire de recherche, je pensais avoir un esprit scientifique, mais c'est seulement plus tard dans ma vie que je me suis rendu compte que, je ne connaissais pas tellement que ça la méthode scientifique. On m'avait pris les résultats de la science, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et surtout, quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait avoir confiance en ces résultats-là? On m'avait jamais vraiment expliqué. Donc j'ai dû me former moi-même en autodidacte sur comment est-ce qu'on fait en fait, méthodologiquement, pour avoir un esprit scientifique. Et c'est ce que j'essaye de vulgariser un petit peu en science dans ma série de vidéos qui s'appelle Hygiène mentale.
Alors je renverrai évidemment nos auditeurs internautes sur votre chaîne vidéo Hygiène mentale, Christophe Michel, mais est-ce que vous aurez précisément à vos camarades, à vos colocataires de Vortex qui sont avec nous en studio, Léa Bello et Manon Bril, est-ce que vous auriez une question à leur poser, Christophe Michel ?
J'aimerais savoir, Léa, Manon, est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous avez cru par le passé ? Mais auquel vous ne croyez plus aujourd'hui et que vous regrettez d'avoir cru. Et aussi, question corollaire, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
Sacrée question de Christophe Michel qui commence. Qui peut répondre ?
Ah, Alors moi, je dirais Manon que Brille. Moi, je viens d'une famille. Je vais essayer de faire comme, je viens d'une famille qui est très athée. Et donc, on m'a dit, toute petite, Dieu, c'est des conneries, et machin et tout. Et j'étais partie du principe que, du coup, tout l'ensemble de ce que pouvait dire la Bible et compagnie, tout ça n'existait pas. Rien du tout, du tout. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que Jésus n'avait jamais existé. Et ensuite, j'ai fait des études d'histoire et j'ai appris que les historiens disaient qu'il y avait eu un personnage historique Jésus. Après, tout le reste, évidemment... ça rentre pas dans la question scientifique, mais un personnage historique qui a existé. Et je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que juste rejeter en masse des croyances et voilà, et une culture même, en fait, religieuse. C'est pas aussi simple que ça. Bref, donc ça, c'est un des trucs qui m'a marqué. Et pour répondre jusqu'au bout à la question de Christophe, c'est parce que la science disait qu'il a existé, j'ai dit d'accord parce que la science le dit. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur... de récapituler pourquoi les historiens disent que, en effet, parce qu'ils ont répondu à cette question depuis longtemps, pourquoi ils disent que Jésus a bien existé, ou un Jésus, en tout cas, a existé.
Ah oui, c'est vraiment, effectivement, aussi complexifier un peu la chose et arrêter de dire que c'est noir ou blanc, oui, comprendre voilà, qu'il y a vraiment.
Oui, puis c'est pas la même chose, la religion en soi,
sûr,
et
les croyances et la réalité.
Qui a fait, voilà.
Bien sûr. Et l'intérêt, et l'un peut nourrir l'autre, évidemment. Fait. Allez, maintenant, vous n'avez pas le choix. Léa Bédé, faut que vous répondiez vous aussi à la question.
C'est très dur comme question. J'ai pas vraiment. Évidemment, j'ai pensé au Père Noël, mais c'est pas une bonne.
Surtout
c'est...
qu'on en a beaucoup débattu.
Mais
pendant
oui, en fait, c'est si ça, ça votre... m'évoque une autre question derrière. C'était que justement le Père Noël, oui, on y croit. C'est quasiment une fake news qui est communément enseignée aux enfants.
Ouais, ouais, qu'on apprend à nos enfants.
Voilà, c'est ça. Et on a beaucoup débattu là-dessus, justement, sur le fait de maintenir ce mensonge, même si c'est une belle histoire, même si on a envie d'y croire. Et ben, on n'était pas d'accord avec Manon.
Ouais, on a fait débat-repas pendant un tournage du Vortex qui était génial.
Comme alors quoi, c'est une vraie colocation.
Mais oui, c'est ça. Il faut tout écouter, puis il faut tout entendre. Hein. Tous les avis sont importants.
Et du coup, dans la colocation, on avait. Moi, je me disais que justement, j'avais envie que mes enfants aient des étoiles dans les yeux en pensant au Père Noël, qu'on puisse construire un peu cette mythologie. En fait. Mais en même temps, je peux te laisser dire ton avis, mais je comprends aussi qu'on puisse ne pas avoir envie que nos enfants croient en cette chose et soient ensuite déçus parce que, voilà, à ce moment-là, au moment où ils comprennent que c'est faux. C'est aussi le moment où ils comprennent que leurs parents peuvent leur mentir.
Bah, moi, en fait, qu'ils soient déçus, ça m'est complètement égal. C'est plus que j'ai pas envie, parce que toute une société m'impose d'enseigner un truc faux à mon gosse, j'ai pas envie, en fait. Et c'est juste des étoiles dans les yeux, je peux en mettre avec un milliard d'autres histoires, même si on lui raconte, et sans lui dire que c'est vrai, on peut lui raconter l'histoire du Père Noël sans dire c'est vrai, par exemple. Et des occasions de les décevoir, j'en aurai un milliard dans toute ma vie, j'ai aucun doute là-dessus. Donc j'ai pas besoin de cette mythologie, et en fait, c'est juste, on pourrait décider si on y fait croire ou non, mais il y a une espèce de pression sociétale sur ce truc-là. Je trouve ça dingue, en fait.
Mais finalement, moi, je trouve que vous avez, enfin, toutes les deux raisons, entre guillemets, mais c'est très intéressant de confronter les points de vue, parce qu'il n'y a pas... Il y a des fake news, mais il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas une seule vérité. Elle peut bouger, elle peut évoluer avec le temps et en fonction de ce que chacun ressent. Oui, notamment sur cette question.
Mais justement, en fait, c'est là où on est arrivé à se rejoindre, c'est que finalement, on n'est pas obligé de leur imposer une vision, mais les laisser découvrir petit à petit cette histoire et raconter, voilà, c'est une histoire... Comme tu disais aussi, peut-être pour une certaine histoire de la religion. C'est une histoire, et puis y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas. Libre à toi aussi, en tant que petit enfant, de chercher, de voir si c'est possible ou pas.
C'est vraiment un éveil à la curiosité, à développer l'esprit critique, à faire le tri aussi. Mais exact. En fait, vous le faites un peu pour nous, parce que, je recommence avec le net, mais quand même, il y a une avalanche d'informations dans tous les sens. Moi, je vois bien, c'est extraordinaire. On peut lire les revues scientifiques directement, on peut tout avoir, mais il faut bien qu'on nous aide un peu à faire le tri et à apprendre à faire le tri. C'est un peu ça, quand même, le but derrière vos très jolies vidéos, parfois très rigolotes.
oui.
Bah oui, non, c'est tout à fait ça.
Et puis vous exhumez aussi, alors là, je me tourne vers vous, Léa Bello, des morceaux de science assez improbables, et parfois compliqués d'ailleurs de faire passer vos vidéos à la radio, parce que je renvoie vraiment nos amis auditeurs sur Zest de Science, sur C'est une autre histoire, sur le Vortex, bien sûr, sur Arte, parce qu'il y a des images en plus et ça marche très bien. Mais on ne résiste pas tout de même, chers amis auditeurs, à vous faire entendre le son des grenouilles fluorescentes. C'est vous qui vous y êtes collés dans Zest de Science, Léa Bello, et franchement, ça vaut le détour.
Bonjour à toutes et à tous, je vous présente Ephipium et Pitanga, de la famille des Brachycephalidae. Ces minuscules grenouilles sont brésiliennes, oranges et toxiques. Et comme si elles débarquaient des années 80, elles adorent porter du fluo. En étudiant la structure de l'oreille d'Ephipium et Pitanga, l'équipe de recherche a découvert qu'elles sont sourdes à leur propre chant.
Quoi ?
Pourtant, ça demande un sacré effort de produire un son, sans compter que ça attire les prédateurs, et d'un point de vue évolution, ça pose pas mal de questions.
À quoi tu sers ? Pourquoi tu l'as ?
Voilà, où vous emmenez les grenouilles fluorescentes. Et non, effectivement, mais c'est hilarant, même comme ça, quand on voit les images, c'est encore plus hilarant. Comment ça vient des idées ? Je pose la question à toutes les deux, mais comment viennent des idées ? Moi, c'est vraiment la femme de radio qui vous pose la question. Aussi de réalisation d'images, alors de musique, je vois bien, mais que tout parle finalement et aille dans le même sens, dans un sens drôle, pour faire passer des vraies infos, de vraies informations très intéressantes.
Alors, dans mon cas, je pense qu'il y a une partie qui se fait à l'écriture, au moment vraiment où il y a des petites choses qui m'évoquent d'autres images. Donc, je vais pouvoir les écrire dans le script. Et
le
puis,
fluo, les années 70,
voilà, c'est ça.
Le quoi.
Et puis, au moment du tournage. Au moment du tournage, il y a au moins autant d'idées de blagues et de mise en scène qui se font à ce moment-là. Et on peut aussi avoir des idées de réalisation ensuite, mais le gros se fait pendant le tournage où on rigole beaucoup.
Et vous, Manon, ça vient comment, vos idées ? Alors, on l'a vu, ça va venir en plus, hein, on n'a pas fini avec vous, côté... je ne sais pas comment appeler ça. Enfin, on n'a pas fini avec vous. Mais comment vous viennent vos idées pour ces vidéos ? Que ce soit drôle, que ce soit en même temps plein d'informations, mais de manière très légère, très marrante.
Ça joue aussi beaucoup sur le tournage. Il y a quelques blagues qui sont écrites, mais ce qui fait... en fait, moi, j'ai tendance à laisser au cours du montage inséré des petits ratés, du bêtisier un peu.
Oui.
Un peu du off dans le montage, ce qu'on ne peut pas faire à la télé ou comme ça. Parce que moi, je tourne, c'est encore un peu assez fait maison. Je tourne juste avec mon ami qui est cadreur-réalisateur. Donc en gros, je fais mes blagues et je dis mon texte face à lui et on rigole ensemble. Il réagit, il y a des choses qui me viennent sur le moment et c'est... Je pense en partie ça qui fait la bonne humeur aussi du truc.
Donc c'est la vie qui passe. Hein.
Exactement. Mmh. Donc je laisse ça des fois dans le montage, des fois non, des fois oui. Et du coup, en effet, y a quelques blagues qui sont écrites, mais beaucoup qui viennent spontanément parce qu'on passe un bon moment. Quoi.
Improvisation. Autour de la question comment faire passer sa science sur le net, vous n'avez encore rien vu ni rien entendu, chers amis auditeurs et internautes, à suivre les cacas fossiles. Oui, c'est ça, trésor des archéologues. Mais ça, c'est une autre histoire, Manon Bril, que nous vous délivrerons juste après un petit coup de chapeau à la lauréate du prix RFI Découvert 2019, oui, cette année, la super chanteuse congolaise Céline Banda. Une nouvelle et sacrée voix à découvrir tout de suite sur RFI.
Dancing the song of mine.
Céline Banza, retenez bien son nom, lauréate du prix Découverte RFI 2019, superbe voix de RDC à écouter sans modération. En compagnie de nos deux vidéastes chic et choc, Léa Bello et Manon Bril, qui viennent de rejoindre le collectif de jeunes talents de la vulgarisation scientifique, le Vortex d'Arte, sur YouTube, autour de la question comment faire passer sa science sur le net et ailleurs pour toucher et éveiller un plus large public aux sciences, à toutes les sciences. Je vous propose un nouvel éclairage vu d'ailleurs, vu du Cameroun. C'est celui de Stéphane Kenmoé, jeune et brillant physicien qui n'a pas son pareil pour faire passer sa science justement au grand public, que ce soit à la télé camerounaise, sur Canal 2 International, où il présente la chronique high-tech dans une émission très populaire, Nous chez vous, ou encore dans un petit ouvrage inspirant, une sorte de fiction qu'il vient de publier aux éditions Binal, La science illumine Joka City. Pourquoi et comment faire passer sa science sur le net et sur tout le continent ? Stéphane Kenmoé au micro de Caroline Fiette.
J'ai débuté il y a quelques années et je vois pas mal de jeunes dans les universités qui s'y mettent aussi, qui créent les chaînes YouTube dans divers domaines, que ce soit la physique, la chimie ou bien la santé numérique ou bien l'économie numérique. Beaucoup s'y mettent déjà et je crois que c'est parce qu'on a compris l'importance et la portée que peut avoir le phénomène des YouTubeurs, puisque les YouTubeurs sont en fait des influenceurs qui donnent plus de portée et de visibilité aux projets scientifiques et technologiques.
Pourquoi est-ce important de faire passer la science avec humour ?
C'est important parce que déjà, la science est facilement assimilable lorsqu'elle est contextualisée. Lorsqu'on la ramène dans le contexte local, on tient compte des réalités locales, on tient compte aussi du niveau d'appréhension de ce que c'est que le développement scientifique. Lorsqu'on tient compte de tout ça, il est plus que nécessaire de faire passer la science avec humour, parce que très souvent, ceux à qui on s'adresse ne sont pas forcément des scientifiques. Ceux à qui on s'adresse, très souvent, c'est le public général, c'est le grand public, et les entrepreneurs, les décideurs, les bailleurs de fonds ne sont pas toujours des scientifiques. Donc, il faut le faire avec humour, parce que ce n'est pas toujours évident d'entrer dans ces équations, dans ces complexités de la science-là, et convaincre les décideurs ou bien le personnage lambda de s'investir.
Alors nous avons avec nous en plateau des youtubeuses de l'émission Vortex sur Arte. Est-ce que vous auriez une question à leur poser ?
La question que j'aimerais leur poser, c'est de savoir si c'était dans le contexte africain où il y a peu d'intérêt pour les sciences fondamentales, par exemple, comment ils s'y seraient pris ? Parce qu'il faut tenir compte aussi du décalage technologique qu'il y a, du fossé technologique et scientifique qu'il y a entre la société où ils exercent et la société africaine, par exemple.
Qui veut, qui peut répondre à Stéphane Kenmoé ? Léa Bello.
Je pense que je suis très d'accord avec ce qu'il a dit et c'est très important de remettre la science dans un contexte qui peut vraiment toucher le public, le spectateur. Donc je pense que pour la question qu'il nous a posée, ce serait peut-être une piste serait peut-être de s'appuyer sur des choses du quotidien, en fait de partir des applications de certaines sciences fondamentales. Je pense par exemple au smartphone qui en fait est un outil qui se base sur énormément de sciences très fondamentales
et dont on se sert énormément sur tout le continent.
Voilà,
tout le monde connaît.
Et donc c'est quelque chose que tout le monde a dans sa poche, donc on peut ça peut être un point d'entrée par exemple.
Manon Bril, vous avez des pistes ou une piste ou est-ce qu'il faut faire ça différemment ou de la même manière ailleurs ?
Eh bien, en fait, malheureusement, la dernière fois que je suis allée en Afrique, ça remonte à il y a 12 ans. Et c'était bien avant qu'il y ait cette utilisation de YouTube, etc. Et du coup, je n'ai pas idée de quelle est la consommation sur le terrain de ces médias, comment on y a accès ou non.
Oui, parce que c'est vrai qu'il faut, voilà, avoir, il faut avoir accès à Internet.
Et je ne me rends pas du tout compte si c'est facile ou totalement acquis ou, plus du, ou pas du tout.
Ça dépend des régions, voilà. Ça dépend véritablement des régions. Et c'est vrai qu'ils sont très facilement sur Facebook. Après, pour télécharger, c'est plus compliqué. Donc, il y a peut-être aussi d'autres médias.
Alors, si Facebook est très utilisé, ça, par contre, il y a beaucoup de gens. Alors, c'est vrai que nous, c'est plutôt en déclin. En ce moment, enfin, notre génération, on va dire, l'utilise de moins en moins. Néanmoins, j'ai des amis qui développent pour leur chaîne YouTube des contenus, enfin, qui ont commencé avec une chaîne YouTube et qui développent des contenus exprès pour Facebook et qui sont postés que sur Facebook pour être un peu sur toutes les plateformes parce qu'il faut mettre plusieurs paniers dans son œuf, bien sûr. plusieurs œufs dans son panier.
Bon, pour que ça marche.
Donc peut-être ça peut être une entrée Facebook est très utilisé en Afrique, par exemple.
Et est-ce que ça marche? Parce qu'on entend Stéphane Kenmoé qui dit il faut intéresser le grand public, mais aussi les décideurs, parce qu'il y a d'autres enjeux sur le continent, mais aussi les décideurs, les entrepreneurs, pour investir dans des projets de recherche et de science. C'est peut-être pas votre but à vous non plus, mais est-ce que ça marche déjà? Est-ce que vous gagnez votre vie, vous, en étant youtubeuse? Comment est-ce qu'on gagne sa vie en étant youtubeuse?
Oui, je pense que si on a décidé de se mettre à faire ça à plein temps, c'est qu'on gagne notre vie. Enfin, c'est...
Mais comment? C'est la pub?
Après, on a des modèles économiques différents. Ouais. Moi, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas lancé ma chaîne. Donc, je vais travailler plutôt comme auteur sur différentes chaînes. Et donc, j'ai un revenu comme quelqu'un qui serait auteur ou réalisateur selon les projets sur lesquels je travaille.
Donc, c'est rentable pour vous de cette manière-là et pour vous, Manon?
Donc, comme ma chaîne m'appartient, elle génère des revenus. Alors, très peu par la publicité YouTube, ça faut faire d'accord, des millions de vues par semaine pour en vivre correctement. C'est pas du tout mon cas, mais moi, je vis grâce notamment au financement participatif via des sites comme Tipeee où les gens font des dons pour soutenir la chaîne. Avec les partenariats, avec des institutions culturelles principalement, quelquefois des boîtes privées, mais principalement des institutions culturelles, et avec des contrats annexes comme celui pour le Vortex. Là, je viens de terminer le tournage d'une série de révision de l'histoire pour France Télé Éducation. Donc voilà, et tout ça en fait...
En multipliant finalement
Non seulement c'est viable, mais moi je peux aussi rémunérer maintenant les intermittents qui travaillent avec moi en leur faisant des cachets, etc. Donc ça marche bien et c'est chouette. Mais pas grâce aux publicités YouTube du tout.
Bon d'accord, ça au moins c'est sûr. Allez, on s'en écoute un petit dernier pour la route. Je résiste pas. Je sais pas si c'est le meilleur, mais disons qu'il est pas piqué des vers et c'est toute une autre histoire que vous nous révélez. C'est une autre histoire, je sais bien, Manon Bril, sur les cacas fossilisés, trésors des archéologues. Faut le faire et vous l'avez fait.
Oui, 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 vous avez bien lu le titre, les cacas sont de vrais trésors pour les archéologues. Parce que ce sont des fouilles merdes, au sens littéral je veux dire, parce que certains d'entre eux sont spécialisés dans les excréments.
Et pas parce qu'on fait un métier de merde, on cherche des crottes, mais des crottes fossilisées, des crottes du passé.
Oui, deuxième information que vous pourrez replacer pour briller en société, ou pas, les cacas peuvent se fossiliser.
Et un caca fossilisé, on appelle ça un coprolite, de copros, excréments et lithos, la pierre.
C'est littéralement des trésors pour les archéologues. Bon, ok, mais qu'est-ce que ça peut bien avoir d'intéressant un étron caillou? Eh ben, plein de choses. Déjà, on peut savoir quel animal a démoulé son brunilla là, et donc quelles espèces, humaines ou pas, se trouvaient sur place. On peut aussi savoir qu'est-ce que cette espèce mangeait, et donc qu'est-ce qui l'entourait en termes de faune et de flore. Et bien sûr, on peut déduire énormément d'informations personnelles sur le poseur de pêche lui-même. Ouais, il y a des gens qui lisent l'avenir dans les lignes de la main, et d'autres le passé dans les lignes de la merde.
Fallait oser, Manon, et vous l'avez fait. Ceci dit, c'est très juste, très instructif, comme quoi tout peut faire science, peut faire sens en science, et science en sens, enfin, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais effectivement, la question de ces cacas très utiles pour les archéologues ou pour les primatologues qui récupèrent, comme Sabrina Krief, ceux des chimpanzés qu'elle suit, ce sont des vraies questions de science.
Oui, bien sûr. En fait, ce qui est amusant, c'est que ce sujet-là, il a été... Enfin, je l'ai pris du chapitre d'un ouvrage de deux auteurs que vous avez croisés sur le Vortex ou sur Internet. Il y a donc Clotilde Chamussy de Passé Sauvage, mm-hmm. dont on entend la voix, et, ainsi que Pierre Kerner, dont on entend aussi la voix. J'aurais demandé de faire des voix en plus.
Et comme c'est Kerner, une grande communauté quand même.
Puis hein. Pierre Kerner qui a travaillé avec Patrick Beau aussi pour son livre, et Patrick Beau qui était avec nous sur le vortex, je m'y perds, il y a tellement d'informations. Mais bref, oui, on est une grosse famille, on travaille ensemble. Là, moi, ça me faisait un sujet et eux, j'ai pu faire un peu de promotion pour leur ouvrage, du coup, à la fin de la vidéo, etc. Donc voilà, donc c'est un sujet, encore une fois, qui est... qui peut paraître anecdotique, mais là c'est écrit par un biologiste et une archéologue, donc c'est vraiment, ça a son intérêt évidemment, et si ça peut être un peu rigolo au passage, ça me va, moi, c'est très bien.
Ça vous va d'être rigolo et aussi de passer une nouvelle formule maintenant, on voit pas toujours votre tête, vous êtes passé au dessin animé, à l'animation, dessin d'animation. Pour faire passer d'autres autrement les choses, pour moins montrer votre tête, pourtant mignonne, je te remercie maintenant.
Merci. C'est pas du tout pour moins montrer ou quoi, c'est simplement parce que j'ai des amis qui font du dessin animé, j'ai eu l'occasion de travailler avec un premier qui s'appelle Colabim, et là maintenant c'est avec Limlu, donc Lucie Garde, et c'est eux au début qui m'ont proposé de faire ces épisodes animés, et moi j'ai adoré l'expérience, c'est vraiment extrêmement agréable de voir son texte sublimé par une mise en scène trop chouette, trop drôle, belle, en dessin, etc. Et avec Lucie, on est parti pour une saison parce qu'on a une subvention du Centre National du Cinéma. Donc, on va pouvoir faire 12 épisodes cette année. Et donc, le prochain avec PV Nova arrive bientôt. Donc.
Ah, avec ce DJ.
Voilà, c'est ça. On est en train de travailler dessus.
Et comment s'appellera la saison ?
La saison, ça, on a appelé ça l'histoire animée. Mais voilà, et le prochain épisode, c'est sur les comptines pour enfants qui parlent de torture.
Oh, c'est super comme sujet, génial. Bon, Léa Bello, à part les comptines pour enfants qui parlent de torture, vous avez quoi comme projet génial que vous avez quand même remporté un prix au Festival Paris Science, qui s'est mis pour la première fois, et tant mieux, à ouvrir cette année une nouvelle case consacrée aux étoiles, donc étoiles de science. Et vous avez remporté un prix pour une série à venir, c'est ça?
Oui, alors c'est le prix Science et Vie TV. Donc, je l'ai remporté avec Sébastien Carassou. Et c'est pour une série qui sera produite par French Toast, qui est donc si vous êtes aussi sur internet, vous pouvez aller voir la chaîne Nexus 6. Donc ils produisent et ils ont des très beaux décors de science-fiction. Et ils vont nous aider à produire une série qui sera diffusée sur Science et Vie TV et qui sera de la fiction, mais qui parle de science. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la fiction comme moyen pour attirer les gens et parler de choses, en l'occurrence, des climats passés de la Terre. Donc, c'est tout à fait d'actualité aujourd'hui.
Ça s'appellera comment, les climats passés de la Terre en version ? Vous ne savez pas encore ?
Ouais, on ne sait pas encore, mais probablement Memory Stock.
Affaire à suivre. En tout cas, il y en a vraiment pour tous les goûts sur le net. Pour un aperçu, justement, rendez-vous sur le Vortex, ce collectif de youtubeurs et youtubeuses de science d'Arte sur la chaîne YouTube. Et puis, bien sûr, renvoie sur vos sites, donc Léa Bello, Zeste de Science, mais aussi Avis de Recherche. On n'en a pas parlé, Avis de Recherche.
Oui, que d'ailleurs, je faisais et j'ai passé le relais à Léa.
Donc, c'est Manon qui le faisait. Et ça, c'est plutôt sciences humaines et ça s'appelle Avide de Recherche. Et puis, Manon Bril, c'est une autre histoire. Et puis, on cite évidemment Axolot, Hygiène Mentale, Dirty Biologie, Syllabus et j'en passe. Vous revenez quand vous voulez, Léa et Manon, pour partager et surtout continuer. On vous suit.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI, comme sur l'appli RFI Pure Radio et même sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditeurs, pour une journée spéciale sur RFI. Attention, déchets, ça déborde. Autour de la question, quel rapport entretenons-nous avec nos déchets, regards croisés de chercheurs sur le sale, mais aussi sur le propre de l'homme. Avec Hugo Violas et Pauline Leduc à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci de votre écoute. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Vous êtes bien sur RFI, le prochain journal, c'est dans un peu plus d'une minute.